Deux invités et du jeu. Jeu comme le jeu de cartes, joker compris. Jeu comme le pronom personnel, avec l'écrivain Thomas Clair qui place le sien au centre d'un programme de poésie. Et Anne Serre qui troque provisoirement le sien contre celui de l'écrivain Enrique Villamatas. Le temps d'un aller-retour Paris-Montauban.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Anne Serre, Thomas Clair, bonjour, bienvenue à tous les deux. Anne Serre, vous êtes écrivaine, premier roman Les Gouvernantes, ça c'était en 92 et on verra que ça compte. On vous doit aussi Le Narrateur ou encore en 2012 l'excellent Petite Table Soit Mise aux éditions Verdier, qui était une fable ou un conte très joyeux d'une orgie en famille. Vous signez aujourd'hui Voyage avec Villamatas aux éditions Mercure de France, un voyage en trois temps et trois variations autour du roman et de ses portes d'entrée, plus ou moins grandes. Et variations autour d'Enrique Villamatas, Paris-Montauban d'abord et la lecture enchantée de l'écrivain espagnol qui s'invite jusque dans votre rame de TGV Place 58. Une nouvelle écrite à la place de Villamatas. Et enfin une tentative de rupture avec Villamatas avant que vous ne le laissiez finalement à son statut de fiction et peut-être bien à son chemin vers la sainteté. Question donc, l'écrivain est-il une fiction ? Thomas Clair, vous êtes écrivain, acteur parfois, performeur notamment et même danseur, ça vous est arrivé. Naissance à 39 ans, dites-vous, avec une première publication, Maurice Saxe le désœuvré, suivi de Paris Musée du XXIe siècle, le livre programme s'il en est, qui arpentait systématiquement le 10e arrondissement, de L'homme qui tua Roland Barthes, recueil de nouvelles, suivi d'Intérieur, description totale de votre appartement, et aujourd'hui vous signez chez Gallimard Poésie, ça se lit mais ça ne s'entend pas, avec Po comme poésie et Easy comme facile. 752 poèmes écrits au jeu entre programme littéraire, littérature performative et autoportrait, de A comme aller-retour à Z comme zoogramme, des grands, des petits, des moyens, des tronqués, des contraints, des narratifs, en 6-4-2, en liberté, en prose coupée, sans rime ou presque, il y en a pour tous les goûts. Le mainstream de l'avant-garde, risquez-vous, page 213, quelque chose en tout cas qui vous définirait comme un artiste ou un écrivain de variété.
Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi. Ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Che tu mi amavi ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
La voix de Bobby Solo, Una lacrima sul viso, tube planétaire de 1964, un an avant Pierrot le Fou, un an avant la mort de Churchill et un an donc avant votre naissance à Neuilly-sur-Seine, Thomas Clair. Dans Poésie, vous écrivez « Les tubes sont des essais de poèmes qui ont tourné chansons ». Pourquoi avoir demandé à entendre celle-là ?
Celle-là parce qu'elle est à la fois gaie et mélancolique, je dirais. Enfin, sa gaieté rend mélancolique ou sa mélancolie rend gaie et j'aime ce mélange. Pour me paraphraser moi-même, je pourrais dire que c'est easy, mais easy veut dire facile. Or, la facilité n'est pas facile. C'est assez difficile d'être facile. Ça ne paraît pas comme ça. Pourtant, ça l'est. Easy, moi, je ne le traduis pas par facile, en tout cas. C'est-à-dire, il y a une espèce d'aisance et cette aisance demande, paradoxalement, une espèce de travail qui ne se perçoit pas lorsqu'on écoute la chanson, mais elle vous envahit avec ce qui a l'air d'être trois fois rien et qui produit son effet presque instantanément, je pense. Mais cet effet, voilà, mais cet effet, j'en suis d'ailleurs encore un peu bouleversé. Et cet effet est pourtant le fruit d'un travail qu'on ne perçoit pas forcément. Cette espèce de légèreté qui est pourtant l'aboutissement d'une grâce.
Vous le traduiriez par quoi alors, Easy, si ce n'est pas par facile hein.
Voilà, c'est une bonne question. Easy, ça veut dire qu'il y a une aisance, un petit peu comme un musicien finalement, qui aboutit à une virtuosité, mais cette virtuosité est le résultat de dizaines d'heures finalement, de travail, d'essais, de choses éliminées, ajoutées, enlevées.
Cette aisance, elle impliquerait aussi une forme de séduction ?
Sans doute, j'ai cherché peut-être oui, une sorte de séduction immédiate par une espèce de facilité. Enfin, le mot facilité étant évidemment très ambigu parce qu'on peut le prendre à mal, on peut le tourner à mal au fond. On peut dire c'est trop facile, un peu comme la variété justement italienne ou comme la chanson qui joue sur une corde immédiatement sensible et donc immédiatement séduisante. J'ai essayé de retrouver un petit peu cette dimension, mais il y a aussi un titre piège. C'est pour ça que Easy n'est pas si easy que ça non plus. Voilà.
Plusieurs programmes à l'œuvre dans Poésie, donc la Poésie, bien sûr, hein, on y reviendra, un programme total hein, s'il en est, l'ABCDR, puisque c'est sous cette forme-là que vous avez choisi de présenter les poèmes, et puis programme, comme on dirait, numéro ou spectacle, puisque les poèmes sont encadrés d'un « bonjour, laissez-moi me présenter » et d'un « merci d'être venu ». Et vous écrivez « Léger, légère, telle est la première partie du show ce soir, du spectacle en levée de rideau ». Oui, je suis comme un artiste de variété, un chauffeur de salle, comme on dit. Laissez-moi donc vous présenter le programme de la poésie. Un rideau donc pour ouvrir le ou les poèmes, ce qui placerait les poèmes sur la scène, ou en tout cas dans le champ du spectacle.
Oui, parce que ces poèmes, un grand nombre d'entre eux peuvent être dits. J'ai une pratique de performance, vous l'avez rappelé. J'aime lire, j'aime dire, j'aime performer des poèmes. Et donc, c'était aussi une manière de rendre hommage à la dimension orale de la poésie. Même si tous ne sont pas forcément faits pour être dits. Hein. Il y a, je pense, là aussi une variété de ce point de vue-là. Il y en a qui passeraient difficilement. D'autres qui, au contraire, sont faits pour, si je puis dire. Mais j'ai trouvé cette chose toute simple qui est que ce livre est un lever de rideau et un baisser de rideau. Donc, ils sont encadrés par une sorte de personnage qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture de mon livre, une œuvre de Jim Shaw, qui représente Fantomas, et qui est une sorte de monsieur loyal qui présenterait comme ça la poésie, comme une suite de numéros, on pourrait dire. Et c'est pour ça que 751 poèmes est lié aussi, bon c'est un chiffre un petit peu énorme, avec des poèmes de longueur très variable, 51 inclut tout simplement mon âge. Et 700, bon c'est le côté gros livre, parce que c'est quand même un livre qui fait 400 pages à peu près, donc je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de poèmes. Je voulais absolument qu'il y ait une très grande variété, pour reprendre ce mot, de poèmes, des poèmes de toutes sortes, lyriques, autobiographiques, politiques, satiriques, plus mélancoliques, plus énigmatiques, certains formalistes, etc. Et donc des poèmes qui pouvaient se passer la rampe, si on peut dire, hein, passer l'épreuve de la scène.
Vous voulez bien nous faire lecture, Thomas Clair ?
Eh bien oui, par exemple, je vais lire un poème qui s'intitule « Ce que je ne me... » « Ce que je ne me... » pardonne pas, c'est d'être devenu relativiste après avoir été jusqu'au boutiste. Un autre poème qui s'intitule « Je me lave souvent ». Je me lave souvent. Je suis complètement angoissé par la mort, alors je me lave toutes les heures, les mains, je me lave les mains et les heures. Comme ça, elle ne collera pas, n'adhérera pas, elle glissera. Et si je sens trop bon, elle ne viendra que pour les clodos. Il faut ruser avec du victorieux savon. Un autre ?
Un autre, un autre.
Je n'ai jamais fait la synthèse. Un enfant court à toute allure sur ma gauche. Il me ressemble en plus gai. Il y a un vieillard qui traîne la patte sur ma droite, qui me ressemble en plus gris. Je n'ai jamais fait la synthèse de quoi que ce soit sur mes côtés réunifiant le tout en formule apaisante ou sage. J'ignore cet équilibre. Je latéralise mal. Un autre ?
Un autre.
Un poème politique, cette fois-ci. Contre les différences de salaire. Je gagne désormais une somme suffisante pour mener une vie normale. À 50 ans, j'ai réussi à m'en sortir. Je vis pourtant petit dans un appartement vieillot que j'ai fini de rembourser le mois dernier après 15 ans de prêt. La partie de Monopoly n'est pas jouée, elle dure, les gens rament par millions, d'où le succès du jeu. Je n'ai jamais compris intellectuellement la justification des différences salariales. Je suis idiot, c'est un fait que l'économie m'échappe, mais qu'on vienne alors publiquement me dire pourquoi il devrait en aller ainsi jusqu'à la nuit des temps, ou bien passer directement par la case départ. Un autre ? Je ne sais pas.
Allez, un petit dernier.
Au hasard, comme ça. Coton. Tu portes ton t-shirt à l'envers, la couture apparaît, et je devine par inversion le noir emblème. En outre, à part ça, tu ne portes pas grand-chose. 99% Angel, et je me concentre sur cette satanée phrase écrite sur le coton qui me fait, à très peu près, ce que je suis en train de dire.
Merci. On notera d'ailleurs dans la poésie que le t-shirt vous occupe infiniment.
Oui.
Si la poésie et finalement la littérature se font spectacle ou performance, Thomas Clerc, qu'est-ce que ça fait du poète ou de l'écrivain ?
C'est-à-dire que pour moi, l'histoire de la poésie, elle se divise inégalement entre l'écrit et l'oral. Et bon, même si je ne me définis pas du tout comme un poète oral, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à cette tradition, je ne me définirais même peut-être pas comme un poète d'ailleurs, au sens où j'ai écrit un livre de poèmes, mais je suis toujours très attiré par ce que j'appellerais la poésie des non-poètes. C'est-à-dire que la poésie finalement peut être, je crois, activée et produite par tout un chacun, et aussi par des écrivains qui ne sont pas je dirais classable comme poète. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que la poésie excède le champ du genre, du genre poésie. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est pour ça, par exemple, qu'on pourrait dire qu'il y a de la poésie dans cette chanson que nous avons écoutée tout à l'heure. Mais il pourrait y en avoir dans d'autres choses, bien sûr, dans des phénomènes, tout simplement. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, j'ai écrit ce livre parce que j'aime la poésie, évidemment. Je suis lecteur depuis toujours et que c'est, d'une certaine manière, la chose la plus importante qu'il y a sur Terre, finalement. Il y a une dimension poétique du simple fait d'être vivant, d'être sur Terre, d'être cette espèce d'énigme. Et donc, j'ai voulu simplement manifester cet étonnement, ce caractère énigmatique, sans me préoccuper véritablement de m'inscrire dans une famille de poésie ou une autre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire éclater, si on veut, le mot de poésie, en le transformant un peu, puisque c'est poésie, dans multiples types de poésie.
Ce qui vous inscrit malgré tout dans une famille, parce que ça en compte une autre.
C'est-à-dire ?
Vous expliquez dans plusieurs poèmes, notamment sur la question de la poésie pure,
oui.
Notamment sur la question des rimes.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne crois pas à la pureté de la poésie. Donc effectivement, je crois à une impureté fondamentale de la poésie et de la littérature d'ailleurs elle-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très hétérogène. Ça part un peu dans tous les sens, finalement. Et en France, on a quand même assez mal accepté cette idée-là. On a notamment la modernité du 19e siècle et la poésie moderne et contemporaine, c'est beaucoup construite sur l'idée d'une parole de hauteur, d'une parole pure, d'une parole de grandeur. Ce n'est pas du tout la tradition dans laquelle je m'inscris, si je veux absolument m'inscrire dans une tradition, mais plutôt dans une poésie, finalement, qui serait avant cette condamnation, finalement, de la poésie de circonstance. Il y a un côté poésie de circonstance que je revendique complètement, et qui peut faire à la fois, finalement, de la poésie politique, satirique, de la poésie très anecdotique par moments. C'est ce qui me touche. C'est pour ça que j'ai quand même employé la forme du vers, mais un vers libre, un vers très, très, très bancal, un vers qui est assez proche d'une certaine prose, finalement, parce que je ne suis pas... Autant j'admire, évidemment, des poètes qui travaillent sur le haut langage, comme Mallarmé, mais ce n'est pas du tout, ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu, au contraire, essayer de chercher une parole beaucoup plus proche du langage ordinaire.
Si l'écrivain Thomas Clerc se fait Monsieur Loyal, qu'est-ce qu'il en est du jeu, J-E, qui tient quasiment l'ensemble de vos écrits ?
Dans ce livre, il est vrai que le jeu est présent au sens où c'est une sorte d'autoportrait, mais un autoportrait extrêmement joué, on pourrait dire, avec 1001 facettes ou 751 facettes, par exemple, si l'on prend le chiffre du nombre de poèmes. Donc c'est un autoportrait, mais c'est un livre qui est peut-être moins frontal d'une certaine façon que intérieur, où je décrivais mon appartement et où là je pouvais investir finalement chaque objet, chaque lieu. Là, c'est quelque chose qui est plus ouvert, il y a moins de contrôle finalement, même si le premier poème par exemple, le premier poème qui s'appelle 1965 et 1965, c'est déjà un poème dans lequel je suis d'une certaine façon un échantillon d'un moment historique. c'est que je ne suis pas dissociable finalement d'une histoire culturelle, d'une histoire politique. Et donc c'est déjà un jeu qui est quand même pris dans un grand tout, on pourrait dire. Il y a un fantasme de totalité dans le livre. Alors je parle bien sûr de moi, mais c'est un moi qui est quand même plus qui est en expansion, on pourrait dire. Je voulais, si vous voulez, par rapport au livre précédent, c'est un peu un livre qui a été écrit contre Intérieur. C'est un peu un livre qui a été écrit comme une planche de salut par rapport à Intérieur, qui était un livre très programmatique, très très étouffant en un sens. Et là, c'est un livre qui ouvre les vannes. On pourrait dire qu'il y a à boire et à manger dans le livre. J'aime que la littérature s'incarne dans des genres extrêmement divers. Donc, que ce soit les nouvelles, la description, le genre descriptif, la poésie, le journal. J'ai un projet de roman qui reste pour l'instant très cérébral, mais bon. Qui est que la littérature, pour moi, doit être à chaque fois redéfinie. Et c'est ce qui m'a plu dans l'écriture de ce recueil de poèmes. C'était de m'essayer, finalement, à des poèmes donc de genres extrêmement variés, hein, entre une poésie plus mélancolique, une poésie plus lyrique et une poésie satirique. Il y a évidemment, ce n'est pas du tout le même investissement. C'est-à-dire que ce sont des nuances.
Et il peut y avoir conflit, parce qu'il y a un petit poème justement où vous expliquez que vous êtes trois personnes, c'est-à-dire le lyrique, le conceptuel et un troisième homme qui refuse de dîner ensemble.
Absolument, oui. J'incarne souvent ça sous forme de combat parce que je suis un être finalement très, très divisé, très, très en conflit avec moi-même. Et beaucoup de poèmes, effectivement, sont liés à ces espèces de combats. Il y a en moi, finalement, une lutte entre le lyrique et le conceptuel, c'est vrai. Il y a entre des sensibilités qui se combattent et qui aboutissent à un résultat plus ou moins bancal. J'aime bien le côté un peu bancal de poésie aussi. Une poésie qui, finalement, comme je disais tout à l'heure, est un peu impure. Ou bien le poème où j'imagine une partie de cartes entre Nietzsche, Marx et Freud, et il leur manque un quatrième, et j'arrive dans une taverne, et finalement on joue aux cartes ensemble avec un jeu d'alliance, etc.
Donc, qui se solde par un match nul.
Oui, qui se solde par un match nul, mais c'est parce que aussi je suis un homme extrêmement influencé par beaucoup de choses. Au fond, tout m'influence, je pourrais dire, d'une certaine manière, et donc j'aime énormément Nietzsche, Marx et Freud, par exemple. Alors j'ai envie de jouer aux cartes avec eux, mais en même temps, je ne sais pas si je serai plus freudien, plus marxiste ou plus nietzschéen. Donc du coup, la partie s'équilibre un peu en somme nulle, etc. Donc, il y a effectivement beaucoup de poèmes qui sont liés à des conflits de sensibilité qui, je crois, donnent une dimension dynamique. En tout cas, c'est ce qui me meut pour produire mes livres.
Il y a le journal, il y a donc les nouvelles, le genre descriptif, poésie, même si on a le sentiment que peut-être poésie pourrait englober le tout. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez. Alors moi, j'ignorais qu'il y avait un projet de roman, mais tous les genres qu'on vient de citer sont peut-être des genres mineurs, d'une certaine façon. Et je dis mineur parce que jusqu'ici, du moins, n'y figure pas le roman. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si en bon bartésien que vous êtes, le roman vous pose un problème ou pas, ou quel serait le problème que vous poserait le roman pour qu'il peine à venir.
C'est pas qu'il peine à venir, c'est que j'aime bien laisser la place à d'autres choses, effectivement, à des choses peut-être, comme vous dites, plus mineures. Bien que je ne crois pas trop à la distinction entre le mineur et le majeur, puisque la poésie me semble quand même être un genre finalement qu'on ne peut pas qualifier de mineur, même si je la pratique un peu.
C'était un mineur éditorial.
Et peut-être une des façons que j'ai de ruser avec ça, c'est d'introduire beaucoup de poésie narrative. Par exemple, il y a plusieurs poèmes qui sont des récits en fait. La poésie narrative, encore une fois, a été discréditée par la modernité. La modernité a dit il faut surtout pas que la poésie raconte quelque chose. Et là, j'ai des poèmes, par exemple, des poèmes de circonstances sur ce qui m'est arrivé dans un magasin où j'essaie d'acheter un calendrier, par exemple, ou alors la balade de la dépendance sexuelle. Donc, c'est une manière pour moi, peut-être aussi, d'actualiser une forme plus romanesque, si on veut.
Parce que vous écrivez dans l'un de vos poèmes, page 189, « Un jour, l'imagination est venue, frappée à ma porte, je l'ai reçue. Une heure entière, j'ai écouté son plaidoyer, puis elle m'a dit « Pardon, je ne suis pas faite pour toi » et je ne l'ai jamais revue.
Oui, très, très bon choix, effectivement. Il y a beaucoup de métapoèmes aussi. Hein. Il y a des poèmes sur la poésie dans le texte. C'est aussi un autre type de poème. Effectivement, je ne peux pas me définir comme un écrivain d'imagination. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, j'ai mis en scène cette espèce de petite allégorie de l'imagination. Ce n'est pas, du tout ma sensibilité, d'où peut-être la difficulté que j'ai à écrire un roman. Et donc, à ruser avec ça. Mais par exemple, j'aime beaucoup les romans en vers. Par exemple, j'aime beaucoup Onegin de Pushkin. J'aime bien aussi quand le roman a lui-même une forme extrêmement travaillée jusqu'à ne plus être tout à fait un roman. Oui, c'est le roman plus traditionnel. Disons, je ne suis pas encore véritablement entré, il n'est pas entré en moi, disons.
Barthes, toujours, alors sans tout prendre au pied de la lettre, parce que je rappelle, vous êtes également maître de conférence à Nanterre, et notamment spécialiste de Barthes. Mm-hmm. Donc, sans tout prendre au pied de la lettre, Thomas Clerc, vous écrivez « J'ai fait un bond et des progrès intellectuels décisifs en découvrant le neutre. Je l'avais repéré avec son bord étrange aux confins du français, en marge et pourtant au milieu, qui rime avec pleutre et feutre, et c'est tout. Telle larme qu'on essuie dans un étui de crainte, le neutre est une forme de vie. Une fuite à la vitre, et Vitruve a dit « L'homme qui se trouve est une intensité proportionnelle ». Est-ce que c'est à lui que vous devez votre naissance tardive à 39 ans ?
Peut-être, oui, il y a peut-être un point commun, si tant est qu'on puisse se comparer à Barthes, ce qui est très prétentieux, mais oui, il y a peut-être dans l'idée, finalement, de franchir un cap, c'était le but du livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'homme qui tue à Roland Barthes », bon, qui psychanalytiquement parle lui-même, si on peut dire. Donc oui, de franchir le cap de l'intelligence à une certaine forme de bêtise qui est nécessaire, je crois, pour écrire. Ce que Barthes n'a jamais franchi. Il y a une telle intelligence chez Barthes que cette intelligence, finalement, est son piège. Et je crois que pour écrire, il faut s'abandonner à une certaine forme de bêtise. Mais bêtise aussi presque au sens presque positif d'être une bête, au fond. Hein, et donc, pourquoi pas une bête de scène ? Il y a aussi peut-être l'idée dans poésie qui est une poésie à la 6-4-2, parfois parfois une poésie presque à dessous, pourrait-on dire. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir se confronter à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intelligence pure. Le drame de Barthes, c'est qu'il est de l'intelligence pure. Il en a fait une œuvre magnifique, mais une œuvre qui consiste quand même essentiellement à commenter les œuvres d'autrui.
Alors, qu'est-ce qui, dans le neutre, vous aurait fait, la découverte du neutre, en tout cas, vous aurait fait progresser? Cette question de progrès est aussi à l'œuvre dans poésie, celle de l'amélioration, celle du progrès.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quel rôle ça a joué, finalement, littérairement pour moi. C'est pour ça que le poème est plutôt centré sur l'idée de progrès intellectuel. Je voulais faire un poème sur la notion simplement de qu'on peut progresser. Ce qui, pour moi, est une idée très, très touchante, en fait. Je crois au progrès, non seulement sur un plan politique, mais aussi sur un plan personnel. Enfin, c'est précisément parce que je crois au progrès sur un plan personnel que je crois au progrès sur un plan politique. Et donc j'aime beaucoup l'idée de m'améliorer d'une manière ou d'une autre, avec toutes les ironies que ça peut comporter, parce que parfois on croit s'améliorer, on devient plus mauvais, mais bon, c'est un autre problème. Mais voilà, c'était juste un poème sur finalement ce que je dois à Barthes en tant que le neutre comme forme de vie. Là, je ne peux pas renvoyer je renvoie à ce cours qui est très très puissant. Il y a une exaltation finalement, il y a une exaltation dans le neutre, ce qui peut être un peu paradoxal. Et je crois qu'alors peut-être si ça a joué un rôle dans ce livre, c'est peut-être que effectivement c'est une poésie un peu neutre par moment, parce que c'est une poésie qui n'est pas très éloignée d'une forme de prose, et par conséquent la différence entre la poésie et la prose n'est pas comme dans la poésie moderne, extrême, mais au contraire assez, elle se frotte un peu. Il y a un poème qui s'appelle Tribologie. La tribologie est un mot que j'ai découvert en travaillant, c'est l'art du frottement. Et tout à coup, cet art du frottement, tout à coup, oui, quand vous découvrez un mot, ensuite vous avez tendance à vouloir tout expliquer, enfin le monde entier par ce mot, par le mot que vous connaissez, que vous ne connaissiez pas il y a un quart d'heure. Alors tribologie, tout à coup je me suis rendu compte que le frottement entre le vers et la prose, eh bien c'était sans doute ça que j'avais cherché, enfin qui est un peu le moteur du livre.
Anser, l'idée d'un progrès ou d'une amélioration, y compris en écriture, c'est quelque chose qui vous touche ?
Oui, il y a eu une chose très précise, c'est que moi, vous faisiez allusion tout à l'heure à mon premier livre, et j'ai eu l'impression d'entrer dans la littérature par ce que j'ai toujours appelé la porte du merveilleux. Parce que c'était pas tant un choix que la seule porte qui m'était ouverte. Que j'appelle porte du merveilleux parce que les premiers textes que j'ai écrits, même les premiers livres, s'apparentaient au conte d'une certaine manière, mais surtout ils avaient ceci de particulier qui me surprend aujourd'hui, que leur contenu était, leurs matériaux étaient exclusivement imaginaires. Il n'y avait aucune allusion, aucune référence à mon expérience, à mes souvenirs, mais pas la moindre. Donc ce matériau était entièrement imaginaire. Et j'ai pris conscience, au bout de quelques livres, que ceci ne pouvait figurer qu'une part de mon art. Et en même temps, je voulais le conserver parce que ça me semblait être un domaine très important et nécessaire à mon art, à moi. Mais c'était comme si j'avais la moitié de quelque chose. Et il fallait que je trouve l'autre moitié. Et je pense que, alors, en parlant de progrès et d'effort, alors, bien sûr, pas de manière très consciente, etc. Mais je pense que j'ai cherché ça. J'ai cherché à acquérir l'autre moitié qui me manquait. «
Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais finis. Et comme les bergers des montagnes de Florence, chante le ciel léger de mon beau pays. Parfois loin des ruisseaux, loin des sources vagabondes, loin des fraîches chansons des aubes, loin des cascades qui grondent, je songe, et c'est là ma chanson, ouvre béni des premières saisons. Mes jeunes années courent dans la montagne, courent dans les sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs. Et les Pyrénées chantent au vent d'Espagne, chantent la mélodie qui berça mon cœur. Chante les souvenirs, chante ma tendre enfance, chante tous les beaux jours à jamais fini. Et comme les bergers des montagnes de Florence.
Mes jeunes années, Charles Trenet, non pas pour vous faire pleurer, Anne Serre, quoique, comme vous l'écrivez dans votre roman, mais comme une entrée en chanson et en géographie, en tout cas dans votre voyage avec Villa Matas, Trenet s'y invite un petit peu. À plusieurs reprises même, dans votre roman, en écho à vos montagnes, au Cantal, à l'Auvergne, ce ne sont pas les mêmes montagnes néanmoins, et puis comme un écho peut-être à ce que vous appelez le feu joyeux de votre chagrin, peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là. L'itinéraire de votre livre paru aux éditions Mercure de France, c'est trois actes, trois variations, c'est Paris-Montauban, 7 heures en TGV avec un livre de Villa Matas, L'Enchanteur, hein, au point que l'écrivain s'installe, siège 58 à côté de vous, et entame une discussion qui se prolonge à Montauban alors que vous allez à une rencontre littéraire à Montauban. Puis un second texte hein, qui est une brève nouvelle enquête écrite dans la voix de Villa Matas. Et puis un troisième acte, Montauban-Paris, retour donc et tentative de se déprendre du dit Villa Matas. Par où commence Anne Serre l'enchantement, la joie, pour reprendre vos termes, la joie Villa Matas? Qu'est-ce que vous y avez reconnu à la première lecture, vous qui dites que vous n'avez jamais joué aussi bien avec personne?
Je crois que ce qui m'a enchantée immédiatement, quand j'ai commencé à le lire, c'est son obsession de la littérature. Et non seulement il était obsédé comme moi, ou plutôt j'étais obsédée comme lui, pour être plus déférente. Mais en plus, nous avions aussi le goût des mêmes auteurs, des mêmes saints patrons de la littérature, c'est-à-dire Kafka, Walser, le roman de Melville, Bartleby. Enfin, il y avait quelques livres fondateurs, en tout cas, même le mot fondateur n'est pas sûr, quelques livres magiques comme ça, qui ont eu une importance considérable pour lui et qui avaient la même importance considérable pour moi. Donc j'ai eu l'impression de trouver une espèce de cousin espagnol, ou même de frère espagnol. On aimait les mêmes choses, on jouait avec les mêmes choses, et depuis le début, on jouait avec les mêmes choses. Même si, en ce qui me concerne, Villa Matas, lui, dès ses premiers livres, a beaucoup évoqué ce monde littéraire dans lequel il vit, moi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, pas de manière explicite. Et puis, il y a autre chose que j'aime beaucoup chez Villa Matas, c'est sa manière de dessiner un labyrinthe. Il a une manière de penser qui est extrêmement comique, comme on sait tous, c'est-à-dire que sa manière d'écrire, enfin qui est la manière de penser, c'est la même chose, il poursuit sa réflexion en suivant des chemins qui font des tours et des détours, et puis parfois, comme dans une impasse, il arrive à un mur, et il revient, et il repart, et parfois il arrive à un mur, c'est-à-dire à une absurdité, puisque quand on suit sa pensée comme ça, en faisant tous les tours et détours, comme dirait Mario Vargas Llosa, il arrive un moment où on arrive à un truc absurde, et puis voilà. Donc, il y a quelque chose de très comique dans son cheminement, de très comique et de tragique en même temps, dans son cheminement, qui forme peu à peu, qui dessine peu à peu un labyrinthe. Et je me rappelle avoir lu que dans la mythologie crétoise, il y avait l'idée que danser dans un labyrinthe assurait l'immortalité. Et je me suis dit, c'est ce que fait Villamatas, et c'est ce que j'essaie de faire, de danser dans un labyrinthe à travers tous mes livres, afin d'acquérir l'immortalité. Quand je parle de l'immortalité, je ne parle pas de l'Académie française. Hein. Je parle de la vraie, de la vraie. Ne pas mourir. Donc on fait la même danse, la même petite danse, qui est une danse un peu comique, un peu ridicule parfois, qui est une danse avec les écrivains. On danse avec les écrivains, on se tient par la main, on fait une espèce de petite ronde un peu folle, pour ne pas mourir.
Et donc quand vous écrivez, quand vous placez au centre de ce triptyque, hein, puisque ce sont trois récits à l'intérieur de ce roman, quand vous écrivez à la place de Villamatas, vous avez commencé par imaginer un schéma, un dessin, un labyrinthe, c'est-à-dire que vous avez commencé par poser un dessin d'écriture ?
Non, j'étais tellement imprégnée de lui. Je suis comme nous tous qui écrivons, un peu une éponge, hein. Et quand je lis des gens que j'aime, je peux parler dans leur langue pendant quelques heures après. Par exemple, si je lis Gertrude Stein, je parle en Gertrude Stein, je pense en Gertrude Stein pendant quelques heures. Après, ça pèse. Et puis voilà. Et donc, quand j'aime, je prends la voix et le ton de l'autre. En tout cas, je suis capable de le faire. Et donc, quand j'étais si imprégnée de Villamatas, que sa langue, sa pensée, ses manies, ses tics, sa voix étaient devenues les miennes, ou bien j'étais devenue lui-même. Enfin, je ne sais pas, il y a eu une espèce de mariage mystique là, qui fait que... Non, je me suis contentée d'écrire un livre à sa place, qui serait, je ne sais pas combien de livres a publié Villamatas, mettons 25, ou ça serait le 26e livre de Villamatas.
Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire à la place d'un écrivain, qui est une formule que vous empruntez à Stendhal d'ailleurs?
Oui,
que vous n'aimez
oui,
pas beaucoup,
oui.
Mais gros yeux de Thomas Clair. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire s'effacer ou au contraire parler plus fort?
Non, ça ne veut pas dire s'effacer, ça veut dire créer un écrivain, mais c'est ce que nous faisons tous. Il y a une invention de l'auteur. Quand on commence à écrire, que fait-on? On commence à... On invente des histoires, mais on invente aussi l'écrivain qu'on va devenir. Je pense que l'écrivain qu'on est, on l'invente avec son œuvre. Donc il y a cette possibilité de se glisser parfois, enfin d'adopter des figures différentes et de devenir Villamatas le temps de 30 pages, et puis de devenir Gertrude Stein le temps de 20 pages si on en a envie, et puis de devenir, je sais pas, Anne Serre le temps d'un roman, parce qu'on a créé cet écrivain en commençant à écrire il y a longtemps.
Thomas Clair.
Oui, non, c'est parce que je rebondissais sur Stendhal et Villamatas ont un point commun qui est l'ironie. Il y a quand même une dimension ironique.
Oui.
Alors je ne sais pas si.
Tout à fait.
Si non, alors
je ne veux pas dire du mal de Stendhal. Simplement, c'est pas un écrivain qui ne fait partie
de votre panthéon.
Voilà, de ceux qui ont beaucoup compté, de ceux que j'ai passionnément aimé, et surtout de ceux qui m'ont enchanté. Ah oui. Puisque pour moi, c'est le terme qui convient, voilà, pour définir les écrivains qui ont compté et que j'ai aimé. Donc Stendhal, je l'ai lu avec plaisir, avec intérêt, naturellement. Mais je n'ai jamais été enchantée.
Ah oui. Vous êtes plus espagnole qu'italienne, alors?
Bah, normalement, j'étais plus allemande. En fait, je me découvre espagnole. Je n'étais pas du tout, j'étais pas espagnole. Bon, un sou. J'étais allemande. J'étais très allemande. J'ai beaucoup aimé la littérature allemande avec, dont je me suis sentie beaucoup plus proche. Et de langue allemande, hein. C'est-à-dire, à la fois, celle évidemment de Thomas Bernhard, dont je parle beaucoup dans ce livre, enfin, un petit peu dans ce livre. Mais aussi, et puis on a parlé de Robert Walser, de Kafka évidemment, mais aussi de, je sais pas, aujourd'hui Herta Müller ou de Elfriede Jelinek ou de
Handke.
Et Handke, dont je parle, que j'évoque aussi dans ce livre. Donc je me suis toujours sentie beaucoup plus proche des écrivains allemands. Et d'ailleurs, je me souviens que plus jeune, que la lecture des romantiques allemands a été très importante pour moi et m'a ravie. On m'a ensorcelée une fois de plus, parce que apparemment je passe mon temps à être ensorcelée, et à essayer de me désensorceler. C'est-à-dire, ça serait un peu mon mouvement dans l'existence, être ensorcelée et essayer d'être désensorcelée, mais sans l'être trop non plus, puisque là où je suis vraiment heureuse, c'est quand je le suis. Donc c'est mon mouvement perpétuel, ce mouvement-là.
On en revient aussi au merveilleux, Anne Serre. Le premier acte, donc, c'est Villa Matas qui s'invite dans votre écriture. Alors, le deuxième texte, vous écrivez à la place de Villa Matas. Et pour autant, le premier texte, c'est vraiment celui-là dans lequel vous écrivez vraiment à la façon de Villa Matas, hein, parce que vous lui empruntez cette littérature qui est littéralement noyée d'elle-même, hein, c'est-à-dire avec vraiment avec une foule d'écrivains imaginaires ou pas, de citations fictionnelles ou pas, qui sont invariablement introduites par de très villamatesques, comme dirait un tel, suivi d'un nom à consonance de préférence espagnole ou sud-américaine. Et c'est comme si la littérature, en fait, retardait ou empêchait, en tout cas, la narration d'arriver, parce que ça prend beaucoup de temps avant qu'on arrive dans le train, avant que le train n'arrive. Enfin, tout ça est en permanence en retard. Au-delà de l'exercice de style, hein, qui est souvent drôle, très drôle, comme chez Villa Matas, d'une littérature qui n'arrête pas de s'enrouler autour d'elle-même, est-ce que c'est un effet de retard qui est à l'œuvre aussi, au fond, dans votre propre écriture? Est-ce que lire, c'est aussi empêcher d'écrire?
Il me semble même que c'est le même mouvement, lire et écrire. Je ne fais pas tellement de différence entre lire et écrire. Là, j'ai eu besoin de ce retard considérable du train. C'était drôle d'ailleurs parce que c'était tellement enfantin comme manière de créer un retard. Ce train était tout le temps en retard, ce qui me permettait de penser. Il faut des pannes pour pouvoir penser. Voilà. Et par exemple, en ce qui me concerne, entre deux livres, souvent je reste longtemps, j'y fais allusion dans ce roman à un moment, entre deux livres, souvent je suis en panne. En tout cas, je reste longtemps sans avoir rien à raconter ou rien d'intéressant à raconter. J'ai découvert que cette espèce de panne qui fait souffrir, qui inquiète par moments, j'ai découvert qu'elle était absolument nécessaire et absolument indispensable à la naissance du prochain livre. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui m'amuse beaucoup et qui est peut-être mon histoire aussi avec ce livre, Voyage avec Villa Matas. Alors, Villa Matas raconte, je ne sais plus où, quelque part, qu'une fois étant en panne, lui-même, il a lu un texte de Gombrowicz, et dans ce texte, Gombrowicz disait qu'il ne croyait qu'au roman imprévu, et que un bon roman était un roman toujours imprévu, etc. Et Villa Matas s'écrit, alors j'ai décidé d'écrire le roman imprévu de Gombrowicz. Et c'est ce qui m'a permis de réécrire. Alors peut-être j'ai décidé d'écrire le roman, un roman de Villa Matas, pour moi aussi me remettre en train, c'est le cas de le dire, puisque j'étais un peu désœuvrée depuis quelques mois.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Anne Serre, sur ce mouvement qui vous tient en permanence, qui est celui d'être ensorcelée et puis éventuellement de tâcher d'être désensorcelée, c'est ce que vous essayez de faire, hein, dans le troisième texte qui compose ce roman. Donc il faut, à un moment donné, il faut se débarrasser de Villa Matas, comme il a fallu se débarrasser pour vous, j'imagine, de Walser, de Kafka, de Thomas Bernhard, de tout un tas de saints patrons, comme vous dites. Et vous dites même, dans le premier texte, avoir longtemps écrit, cette phrase étonnante, avoir longtemps écrit pour ne pas décevoir Kafka.
Oui. J'ai quelque chose d'assez enfantin, ma manière d'être au monde, moi. Et j'ai tellement aimé Kafka, je l'ai tellement admiré, vénéré, qu'il est vrai que chaque fois que je me suis mise à écrire une histoire, j'ai cette chouette de Kafka, puisque Kafka, comme tout le monde le sait, son nom signifie chouette. J'ai Kafka qui est posé sur mon épaule, là, espèce de surmoi, si vous voulez, mais c'est mieux qu'un surmoi, parce que mon surmoi, il a pas grand intérêt, mon surmoi à moi. Tandis que Kafka, c'est beaucoup plus intéressant comme surmoi. Et Kafka, il l'a sur mon épaule, et il veille quand même à ce que je suis en train d'écrire.
Et... c'est pas seulement veiller, c'est juger, parce que si
oui,
vous...
absolument, il veille avec sa bienveillance de Kafka. Moi, je tiens à ce que Kafka soit content de moi, et parfois j'enlève un passage ou je renonce à un passage parce que je sens que Kafka est un petit peu sceptique devant ce passage-là. Oui, donc j'écris toujours. D'ailleurs, il est là en permanence. Hein. J'écris toujours avec ce. Alors il y a lui, il y en a quelques autres, hein, mais qui sont moins importants. Il y a Rousseau aussi. Jean-Jacques Rousseau est sur l'autre épaule. Mais Jean-Jacques Rousseau, son jugement, son avis m'intéresse beaucoup. Mais à la limite, je pourrais m'en passer. À la limite. Tandis que Kafka, non, Kafka, c'est le nombre d'or.
Et... ce sont quand même, si je puis me permettre, tous les deux des écrivains de la loi.
Ah oui, c'est une remarque intéressante, ça. Oui, oui, oui. Oui. Et alors, alors écrivain de la loi, je sais pas. Oui, le jeu de loi, peut-être. Autant la loi, enfin, la loi, non, le mot loi m'évoque pas grand chose comme ça, là. Peut-être dans une heure, je me dirais, mais oui, j'ai plein de choses à dire sur la loi. Tout de suite, non. Par contre, le jeu de loi, oui. Le jeu de loi, oui. Parce que j'aime jouer, et j'aime les jeux de société. J'aime les jeux en famille, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec un livre précédent qui s'appelait Petite Absoumise, qui est une espèce de jeu de société familial. Au fond, je raconte un peu toujours la même histoire. Donc, l'histoire d'un ensorcellement. Dans Petite Absoumise, c'était un ensorcellement familial, la joie familiale, la jouissance familiale. Et dont il fallait sortir pour vivre. Et là, je fais un peu la même chose, mais c'est la même chose. C'est ma famille, les écrivains. C'est même encore plus ma famille que l'autre. Et donc, c'est cette famille qui m'ensorcelle, avec laquelle je joue en permanence, avec jubilation, avec confiance, avec bonheur. Il y a des moments où il faut que j'en sorte pour ne pas être happée. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me raconte, hein.
Thomas Clair, vous avez une chouette, un volatile sur l'épaule ?
J'en aurais peut-être trop, finalement. J'en aurais peut-être trop, et je comprends très bien ce que dit Anne Serre. Tous les écrivains, finalement, sont de ma famille. Tout à coup, j'ai une image, vous voyez, de dizaines et de dizaines d'animaux empaillés, mais j'aime bien les animaux empaillés, donc qui serait finalement, mais qui serait infini. Il y a un côté infini finalement dans la littérature, et donc on a une infinité de gens qui nous regardent ou qui nous caressent, qui nous observent. Mais alors, faut pas que ça pèse. Hein. Moi, je veux pas trop que ça soit sur l'épaule.
Il pèse très peu.
Voilà, hein. Oui,
c'est vrai. Il est très léger, oui. Kafka. Hein.
Là, vous êtes assez paradoxal, parce que quand même,
c'est la légèreté de Kafka.
Oui, c'est.
Alors, à propos de Saint Patron, Anne Serre, vous avez demandé à entendre une voix, et cette voix, c'est celle-ci.
Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui dis « Quoi ? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre ? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé ? » Et il se redresse, il me sourit et il me dit « J'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. »
La voix de Céleste Albaret, la dévouée, la servante de Marcel Proust. Ce qu'on ne voit pas en entendant sa voix, c'est qu'elle écrase une larme de son mouchoir en même temps qu'elle raconte le point final de la recherche. C'est la voix de Céleste ou c'est le point final que vous vouliez faire entendre, Anne Serre ?
Les deux. Alors j'aime beaucoup la voix de Céleste, qui est une voix assez théâtrale d'ailleurs, très théâtrale même. Et puis elle a un amour pour cet homme pour lequel elle travaillait, avec lequel elle vivait finalement, enfin qui est très touchant, qui est très émouvant. Donc j'aime à la fois, j'aime deux choses. J'aime son amour pour j'aime les gens qui aiment, et j'aime son amour pour Proust, la tendresse avec laquelle elle parle de lui. Et puis c'est toujours ce dernier moment d'un écrivain qu'on admire, d'un grand homme, de quelqu'un qui vous est très cher. Ce dernier moment, c'est toujours quelque chose de très beau, de très mystérieux, à quoi normalement on n'a pas accès. Je pense qu'on aurait tous envie secrètement d'être dans la chambre où Proust est mort, où Kafka est mort, où Stendhal pour vous, puisque vous l'aimez, enfin, tous les... Voilà.
Mort à l'hôtel, malheureusement.
Vous auriez pu être à l'hôtel, vous auriez pu...
C'est un poème sur la mort de Roussel.
De Raymond Roussel, oui, c'est pour ça que Charlotte Dufresne...
Je pense que c'est un moment interdit, comme une séance de psychanalyse. C'est un moment où on voudrait être dans la pièce et avoir été là à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose de secret qui se passe là, enfin, comme la mort l'est toujours. Mais il me semble que la mort d'un grand écrivain, c'est encore plus... Ce passage, c'est encore plus mystérieux, plus fort, voilà. Donc, j'aime Céleste, j'aime quand elle parle de Proust, j'aime comment elle parle de Proust. Et puis j'aime savoir quelque chose de Proust... J'avais l'impression de toucher un tout petit peu quelque chose de lui.
Mais c'est aussi la voix au magnétophone qui est au magnétophone, enfin sur bande magnétique, je ne sais pas, mais qui est très 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 étrange, qui produit cet effet d'étrangeté, parce qu'il y a une sorte de lien entre le monde de Proust, qui est quand même le monde, enfin, il est mort en 1922, il n'y avait pas encore ces... Je pense que c'est...
Est-ce qu'il y avait déjà des magnétophones?
J'ai pas l'impression. Et tout à coup, on a cette femme...
Si, on a enregistré déjà.
Oui, bon, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre le monde de Proust, qui n'évoque pas le monde du magnétophone, et le monde de Céleste Albaret qui apparaît comme ça.
Et peut-être que Céleste, on n'avait pas beaucoup l'habitude, et elle moins, on n'avait pas beaucoup l'habitude d'être enregistrée.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc peut-être que Céleste, quand on l'a enregistrée, s'est cru obligée d'avoir une voix un peu de...
Oui,
de tragédienne. Oui. Voilà, oui. Et c'est très émouvant, ça.
Dans Voyage avec Villamata, Sancerre, vous citez, vous aussi, mais furtivement, Barthes, à propos de Proust, décidément. Barthes qui avait dit, du moment où Proust avait entrepris la recherche, un, il avait décidé de changer de jeu, et deux, il avait projeté une immense durée d'exécution. Alors je dis ça à propos de l'immense durée d'exécution, puisque c'est de ça dont vous parlez. Vous vous attardez dans votre roman sur votre propension à produire des compressions de romans, ou en tout cas des textes compressés, au point pour le premier roman, je crois, d'avoir développé une nouvelle. Je crois même que c'est le premier texte par lequel Thomas Clair est entré dans votre littérature. C'est ça?
Oui, c'est un texte avec des questions, en fait.
C'est un autre auquel vous faites allusion. Oui. Il y avait une nouvelle qui était faite entièrement de questions.
Voilà, m'avait frappé, oui. Je l'ai lu il y a très longtemps, j'en avais été ébloui.
Ah oui, merci. Oui. Non, là, vous parlez d'un autre texte.
Qu'est-ce qui imposerait, au fond, cette compression, Anne-Serre? Vous parlez même du problème de la compression ou de l'amplification de vos romans. Qu'est-ce qui fait problème?
Ce qui fait problème, c'est que j'ai un problème, comme je le raconte dans ce livre, avec le chiffre 12. C'est-à-dire que quand j'arrive à 120 pages, quelque chose se passe que je ne maîtrise pas du tout, et je me refuse d'en parler avec ma psychanalyste, parce que je veux que cette chose reste mystérieuse, et je veux me débattre toute seule avec elle. Il y a quelque chose chez moi de bizarre avec le chiffre 12. D'ailleurs, mes amis proches le savent et s'en moquent. Quand je dis « Ah, c'est formidable, je suis en train d'écrire un nouveau roman », on me dit « Essaie d'aller jusqu'à la page 130 ». Alors, parfois, le livre, je vois que vous feuilletez, parfois, le livre, une fois qu'il est composé, il a l'air d'aller jusqu'à la page 150, etc. Mais mes manuscrits font toujours 120 pages. Et je ne peux pas m'arrêter à 119 et je ne peux pas m'arrêter à 128. y a une espèce de sorcellerie, de sort qui au-dessus de moi qui fait que voilà, je suis attachée à ce chiffre magique. Alors dont j'ai envie naturellement là aussi, mais au fond c'est ma lutte, c'est ma vie. J'ai envie d'en sortir. Et puis en même temps, j'aime bien être prise dans ce piège-là aussi.
Alors, Anser, il était question que vous lisiez, il en est toujours question, oui. Mais du coup, je me demandais s'il n'était pas possible, sauf si ça vous en
dit, bien sûr. C'est-à-dire la page 120 ?
Alors, non pas la page 120, mais enfin, c'est au début du texte, non, c'est pas page 12, mais en tout cas, il y est question de cette fameuse obsession du 12.
Oui, c'est tout au début. Alors, je vais vous le trouver. Elle parle de sa manière de voyager en train. De mon côté, je suis toujours un peu divisée entre la consultation de livres que j'ai emportés et celle du paysage, car après tout, le paysage vaut tout de même le coup d'œil. Comme l'avait dit James Aspert lors d'une conférence à Saint-Gall, lui qui ne sortait jamais de chez lui avait vécu 12 ans, sans du tout mettre le nez dehors, exactement comme Nathaniel Hawthorne à Salem. Parfois, je rêvais à ces 12 années d'enfermement d'Aspert et de Hawthorne, 24 années d'enfermement à eux deux, car le nombre 12 comportait pour moi, comme le chiffre 8 pour Giacinto Chelsea, quelque chose de magique et d'asséné par ma destinée. Ma mère était morte lorsque j'avais 12 ans. En 92, j'avais publié mon premier livre. En 2012, j'avais publié le 12e de mes livres, qui m'avait valu un franc succès. J'avais quitté Guillaume, le grand amour de ma jeunesse, un 12 décembre, et rencontré Thomas, un 12. J'avais sûrement même oublié un tas de 12 dans mon comptage, mais il apparaissait clairement que ce 12 jouait un rôle bizarre et insistant dans mon existence. Dès que je lisais qu'un homme avait 12 filles, que tel écrivain que j'aimais, comme Walser par exemple, était tombé mort au champ d'honneur couvert de neige au 12e kilomètre de sa promenade, qu'un tel avait essayé 12 fois de tuer sa mère, ou que 12 enfants de 12 ans avaient été enlevés, je me sentais concernée. Comme si on me parlait de ma famille urgente, qu'il fallait sans cesse sauver de la mort, de la folie, du suicide, de l'accident. Dès qu'on disait 12, j'étais sur le pont, car je me suis toujours efforcée, en vain naturellement, de sauver ma famille.
Merci. Alors peut-être avant de vous laisser terminer entre vous, Thomas Clerc et Anne Serre, alors je ne résiste pas, c'est une deuxième archive que vous aviez demandée. On l'écoute. Nino Rota, bien sûr, le thème de 8,5, ça vous rend dingue, hein, étiez-vous en train de dire pendant qu'on l'écoutait.
Oui, c'est une petite musique. C'est une petite musique qui m'évoque, sans lui ressembler du tout, l'histoire du soldat de Stravinsky avec cette musique un peu dissonante, un peu qui est la musique du diable. C'est la musique qui vous entraîne vers un gouffre, qui vous entraîne vers. C'est une petite. Comment s'appelait cette histoire de cet homme, la flûte d'Hamelin, qui emmène cette troupe d'enfants, on ne sait pas où. Voilà, pour moi...
Ensorcelé encore, décidément.
Toujours, toujours. Il va falloir que j'en sorte. Je vous promets que je vais essayer de sortir de l'ensorcellement pour déjà parler d'autre chose. Mais voilà, il y a quelque chose, et puis qui fait peur un peu. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Une musique qui est un peu effrayante, tant elle est engageante, tant elle est séduisante. Oui, cette musique me ravit une fois de plus.
Un piège, comme poésie peut-être.
Oui, moi je la vois plutôt comme une sorte de joie supérieure qui vous entraîne aussi, mais plutôt un gouffre joyeux.
En fait. Oui.
Tout dépend qu'on soit terrifié ou pas par les clowns, par exemple, voilà. C'est mon cas.
Ouais. Oui.
Peut-être pas vous. Merci à tous les deux, Anne-Serre et Thomas Clerc. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Merci. Oui, c'est amusant, ça.
Faut que je vous dise une chose à propos de votre livre. J'ai lu, j'étais très surprise d'apprendre que c'était poésie, poésie. Moi, je l'ai lu comme poé-asie.
Ah, mais
très bien. J'ai cru que c'était de la poésie dans laquelle il y avait de l'Asie.
Oui.
Et du coup, j'ai cherché, en le lisant, je cherchais, depuis le début, où était l'Asie dans ce livre.
C'est amusant, d'autant plus que certaines pièces ont été écrites au Japon.
Voilà, alors j'ai trouvé, tout à fait.
Il y a un poème qui s'appelle « Après intérieur » et qui raconte mon retour du Japon. Donc, bon, ce que j'aime bien, c'est que le titre, finalement, puisse être prononcé quand même de différentes façons, manifestement. Quand on le prononce, on ne comprend pas toujours forcément le jeu de mots qui apparaît quand même normalement à l'écrit.
Oui, c'est bien un titre justement comme ça qui est élastique.
Oui, voilà, voilà.
Qui n'est pas fixé figé.
C'est vrai, il y a Edgar Poe aussi dedans, ça je ne l'ai pas voulu forcément, j'aime bien l'idée que Poe, qui est un poète que j'admire, contienne déjà dans son propre nom la première syllabe
de votre titre.
Oui, et puis du genre dans lequel il s'est illustré magnifiquement, notamment.
C'est une chose intéressante, les titres, la manière dont on les trouve, on les trouve pas parfois.
Oui, c'est vrai que vous avez un titre qui est lié à un écrivain, c'est évidemment quelque chose...
Et qui a un nom formidable. Oui. Il se serait appelé, je sais pas, autrement, je vais pas citer de nom, il se serait appelé d'un nom, moi.
Oui.
Mais Villa Matas, c'est comme Villa Adriana, c'est comme une maison.
C'est un très beau nom.
On pénètre dans ce nom comme dans une maison.
Oui, oui.
Ce qui rajoute. Et Villa Matas fait remarquer quelque part que son nom, l'anagramme de son nom, c'est Satan Alive.
Ah.
Villa Matas, si vous lisez à l'envers, Satan Alive. Ce qui est quand même
bon,
dingue.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que les titres à nom propre, c'est pas toujours évident. Hein. Je trouve qu'il y a une espèce de...
Parce
qu'on est tout de suite un peu, désapproprié de son propre...
Les titres à nom propre, il y avait Marguerite Duras qui avait fait des prénoms féminins.
Mais je veux dire, d'un nom propre d'un écrivain vivant, comme vous en êtes un également.
Oui, mais Villa Matas a l'air tellement d'avoir un nom de fiction. C'est un très beau nom de personnage de roman, Villa Matas.
Anne-Serre, c'est un beau nom aussi. Hein. Il y a quand même côté griffe, comme ça. Chouette.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Claude Nior pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Anne Serre et à Thomas Clerc. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr.